Bonjour et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast indépendant consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Depuis 2017, je donne la parole à celles et ceux qui façonnent le monde de demain. Dans ce podcast, on parle d'écologie, bien sûr, d'activisme, d'entrepreneuriat, de bénévolat. Mais avant tout, on écoute. On écoute les invités nous raconter leur parcours, leurs projets et surtout leurs rêves. Je vous donne rendez-vous ici, tous les jeudis, pour faire le plein d'optimisme. Si vous faites partie des fidèles auditeurs et auditrices, n'hésitez pas à laisser un commentaire et des étoiles sur la plateforme d'Apple Podcast. C'est la meilleure façon de soutenir mon travail. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, @basilicpodcast. Et maintenant, place à l'épisode de la semaine. Belle écoute à tous. Cette semaine, je vous invite à écouter une table ronde consacrée à la ville de demain. Tandis qu'en 2020, la moitié de la population mondiale vit en ville, d'ici 2050, ce sont les deux tiers qui y vivent. Nécessairement, cela soulève beaucoup de questions. À quoi ressemblera la ville de demain? Comment doit-on, dès aujourd'hui, comprendre et appréhender les transformations et les mutations de la ville? Quelles sont les conséquences de ces changements dans le quotidien de celles et ceux qui conçoivent et construisent nos villes? Que signifie la notion de co-conception de la ville? Quelles sont les attentes des usagers? Comment peut-on, nous citadins, créer du lien avec celles et ceux qui nous entourent? Pour répondre à toutes ces questions, j'ai la chance d'avoir tendu mon micro à des spécialistes pour qui la ville de demain n'a plus aucun secret. Au cours de cette table ronde, vous écouterez Sonia Lavadino, anthropologue et géographe qui travaille depuis 15 ans sur les enjeux de la mobilité durable. À ses côtés, Julien Schmitt, directeur marketing stratégique de Bouygues Construction et porteur du projet CityPlay, ainsi que Nicolas Barre, cofondateur de Make Ici, un réseau de manufactures collaboratives et solidaires. Avec mes invités, nous nous questionnons et réfléchissons ensemble à l'avenir de la ville. Cette table ronde a été organisée grâce au soutien de CityPlay. Malheureusement, compte tenu de la situation sanitaire actuelle, Sonia Lavadino a participé à cet échange en distanciel. Bonjour à tous, nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre d'une table ronde consacrée à la ville de demain et toutes les réflexions que l'on peut y apporter. J'ai la chance d'être en compagnie de Julien Schmitt, Nicolas Barre et Sonia Lavadino. Sonia, peut-être pourriez-vous commencer par vous présenter, s'il vous plaît.
Oui, avec plaisir, c'est avec joie que je suis avec vous en distanciel, mais quand même ensemble, ce qui est comme l'essentiel, on va dire, de la question. Je suis donc Sonia Lavadino, anthropologue urbaine et géographe. Mon intérêt se situe autour des questions liées à la transition comportementale et à la façon dont les nouveaux modes de vie vont influencer nos façons de nous approprier la ville.
Nicolas.
Je suis Nicolas Barre, cofondateur de Make Ici, qui est une structure en fait qui conçoit et qui anime des tiers-lieux de production depuis 2012 en France. En fait, on permet et on propose à ce qu'on appelle nous des entrepreneurs du faire, donc tous les entrepreneurs qui ont besoin d'outils de production et de savoir-faire artisanaux, donc artisans, designers, architectes, décorateurs d'intérieur et pros de la fabrication numérique. En fait, on leur fournit à la fois les lieux, les bureaux, les ateliers, les espaces de stockage, les machines et l'écosystème en fait, pour pouvoir apprendre, lancer et développer leur activité. On existe depuis 2012. Aujourd'hui, on opère 4 manufactures en France. Montreuil depuis 2012. Ici Marseille depuis 2018. Ici Nantes depuis 2019. Et la manufacture du Puy-en-Velay depuis 2020, depuis cette année, en partenariat avec l'AFPA.
Et enfin, Julien, à votre tour de vous présenter.
Et donc, bonjour, Julien Schmitt. Alors, moi, pour faire très simple, je suis en charge du marketing stratégique chez Bouygues Construction. Et donc, effectivement, en charge de développer notre approche sur la fabrique de la ville, et donc pour rendre les villes et les territoires plus durables au travers de tout ce que le groupe Bouygues Construction peut apporter à ces territoires.
La première question que j'aimerais aborder avec vous et que je vous pose à tous les trois est de savoir comment la ville s'est transformée au fil de ces dernières années. Quels changements notoires avez-vous observé?
Pour moi, très clairement, le changement le plus notoire, je dirais depuis peut-être une quinzaine d'années, mais qui s'affirme beaucoup depuis notamment l'émergence de l'iPhone et de façon plus générale le nomadisme connecté, si je peux l'appeler comme ça, et le fait que on vit beaucoup plus dehors, donc on a une transformation forte en branle depuis déjà le début du siècle, de cette grande mouvance, on va dire, de la ville du dedans vers la ville du dehors, au sens de passer plus de temps à l'extérieur, dans l'espace public, et d'y transférer un certain nombre d'activités, d'usages que précédemment on faisait plutôt à l'intérieur. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de quelle façon les intérieurs se modifient pour accompagner cette tendance un peu lourde qui est là en lame de fond, et de quelle façon les intérieurs eux-mêmes s'extériorisent sous la poussée d'un certain nombre de transformations à la fois architecturales et paysagères qui font qu'on a de plus en plus l'impression, même quand on est dedans, qu'on est dehors, avec à la fois une végétalisation beaucoup plus forte de beaucoup d'espaces, l'utilisation de grands volumes qui donne aussi cette impression, une pénétration beaucoup plus forte de la lumière, donc une tendance globale à cette ouverture et aussi à même, je dirais, parfois à la création de microclimats qui peuvent donner cette impression de pouvoir être à l'extérieur alors même qu'on est à l'intérieur, et disons, je dirais, de brouiller un peu les frontières, de faire en sorte que ce ne soit pas si évident de savoir si on est à l'intérieur ou à l'extérieur. Et on a beaucoup d'espaces hybrides qui se forment, notamment dans les appendices des maisons ou des bureaux ou des tiers-lieux. Il y a aussi une tertiarisation des lieux de façon un peu globale qui fait aussi qu'on a cette tendance, on va dire, à plus avoir des sas qui sont à la fois dehors et dedans. Ça, c'est une des grandes tendances de fond que j'observe. L'autre grande tendance étant celle du corps en mouvement et le fait que nous sommes dans une logique dans laquelle, toujours en nous mouvant, nous sommes en contact les uns avec les autres. Ça a l'air de rien et aujourd'hui, on est tellement submergé par cette tendance qu'on l'oublie. Mais avant l'apparition de la faune en 2008 et avant donc cette digital connectedness que nous vivons aujourd'hui toujours en mouvement, nous n'étions pas dans cette mouvance, nous étions injoignables, on ne se rappelle plus tellement de cette époque. Quand je vous dis ça, je peux paraître un petit peu comme un dinosaure, mais fut un temps, nous sortions d'un espace clos, la maison ou le bureau, et nous étions totalement injoignables jusqu'à ce que nous rentrions de nouveau sous un toit, parce que les téléphones n'étaient que fixes et vous n'aviez pas la possibilité d'être comme ça en contact avec les gens, alors même que vous êtes en déplacement à l'extérieur. Et cette connectivité, qui est un phénomène que j'ai appelé dans mes travaux la mobilité constellaire, le fait qu'on puisse être constamment en lien avec nos constellations, c'est quelque chose qui influence beaucoup nos décisions au cours de la journée.
Merci Sonia, on reviendra sur cet aspect de lien un petit peu plus tard. Vous avez néanmoins soulevé un autre point qui m'intéresse beaucoup, qui est celui de la ville du dehors. À ce sujet-là, j'aimerais avoir le ressenti de Julien et de Nicolas à propos de cette notion de ville du dehors, mais aussi sur la transformation de la ville ces dernières années. Julien ?
Moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas tant la ville qui s'est transformée, mais c'est plutôt l'usage qu'on en fait. Et effectivement, avec un usage du dehors qui est en pleine expansion, c'est l'usage qu'on en fait en termes de mobilité. On voit ces 2-3 dernières années notre façon de se déplacer dans la ville qui a énormément évolué. C'est l'usage qu'on en fait au travers du développement de tiers-lieux, et ça, Nicolas pourra en témoigner. Mais la ville en soi, qui est quelque chose qui se fabrique de façon très très lente et très stable, se transforme assez peu. C'est comment on utilise cette ville-là, finalement, qui se transforme, elle, très rapidement. Et on le voit sur certaines choses, de façon, en l'espace d'un ou deux ans, les usages sont complètement différents.
En fait, c'est la façon de penser la ville qui a évolué.
Et du coup, c'est la façon de la penser, effectivement, qui doit évoluer, puisque l'usage qu'on va en faire derrière, lui, évolue.
Nicolas ?
Moi aussi, j'observe cette tendance, effectivement, qu'il y a de plus en plus d'usage du dehors. Mais pour revenir sur le début de la question, en fait, moi, sur ce qui change dans la ville, moi, j'ai remarqué, en tout cas, à mon niveau, qu'il y avait de moins en moins, qu'il y avait plein d'usages qui avaient disparu. Et qu'en même temps, d'autres réapparaissaient. Voilà, c'est-à-dire que aujourd'hui, il est de plus en plus compliqué de trouver dans notre domaine, nous, les savoir-faire locaux. C'est-à-dire que quand on cherche un serrurier, quand on cherche un ébéniste, un styliste, ou quand on cherche quelqu'un pour réparer, pendant des années, c'était impossible. Alors depuis 3-4 ans maintenant, il y a ce qu'on appelle effectivement les tiers-lieux qui se lancent et qui intègrent ces services. Après, si on va dans, il y a même les services publics qui sont de plus en plus compliqués, qui disparaissent de certains quartiers. Moi, j'ai une anecdote à raconter qui est quand même hallucinante. J'ai un ami qui habite rue Jacob. Alors, rue Jacob, on ne peut pas dire que c'est quand même le quartier le plus pauvre de Paris. Il vient de fêter, il y a 15 jours, les 10 ans de leur demande de raccordement à la fibre. Donc, la rue Jacob dans Paris est un désert numérique. C'est quand même hallucinant. Donc, en fait, je veux dire, en fait, c'est tellement hétérogène. En fait, il y a même des quartiers privilégiés. A priori, la fibre n'arrive pas. Ils ont de moins en moins de petits commerçants. Du local, des usages à la fois destinés à des professionnels, mais aussi à des particuliers. Les cafés, il y en a de moins en moins. C'est remplacé par des Starbucks, mais c'est pas du tout le même. Il en faut des Starbucks, mais c'est pas du tout le même univers, quoi, la même ambiance. Donc moi, la principale transformation, c'est à la fois plein de services qui ont disparu, mais qui paradoxalement commencent à réapparaître très fortement. Depuis 3-4 ans, mais ensemble. C'est-à-dire que des tiers-lieux qui se lancent ou autres qui intègrent dans un même bâtiment des dizaines de services qui avaient disparu. Ces services ont disparu parce que le modèle économique était compliqué à tenir. Payer un loyer, assurer un salaire qui sont de plus en plus compliqués quand on a des grosses charges, surtout en centre-ville. Donc on le voit à Paris, mais quand on regarde les centres-villes de la plupart des villes moyennes de France, c'est un désert. Il y a la moitié des commerces ou des pas de porte ou des rez-de-chaussée où il n'y a plus rien. Mais donc du coup, le fait d'avoir une structure qui englobe tous ces services, ça permet de mutualiser des charges et autres et de pouvoir les réimplanter parce que le modèle économique le permet.
Julien, chez Bouygues Construction, j'imagine que c'est quelque chose que vous observez beaucoup. Comment est-ce que toutes ces évolutions ont changé la façon de créer ou concevoir un projet immobilier ? En quoi est-ce que ça a impacté votre travail ?
Ce qu'on constate, c'est qu'en fait, auparavant, la ville a cherché à répondre à des besoins, finalement, à nos besoins, besoin de se loger, besoin de travailler, besoin de se divertir. Et qu'aujourd'hui, on est dans un contexte avec l'enjeu climatique, avec l'enjeu de l'emploi, avec toutes ces thématiques-là. La ville, elle doit aller au-delà de répondre à des besoins, elle doit répondre à des grands enjeux et à des défis, elle doit les relever. Et donc ça complexifie énormément la façon de penser la ville, de la fabriquer, effectivement. Et donc, puisque ça la complexifie, on se rend compte que elle ne peut plus être pensée uniquement par des sachants que nous sommes, constructeurs, urbanistes, etc. Et donc, elle nécessite de fédérer très très largement le plus de parties prenantes dans sa façon de la penser, de la concevoir. Donc c'est ce vers quoi nous on cherche à aller chez Bouygues Construction, et en intégrant le plus possible effectivement les habitants, les usagers de la ville dans sa conception, dans sa fabrication, dans sa façon de derrière l'utiliser. Donc c'est en tout cas le constat qu'on fait et ce vers quoi on cherche à aller.
Quand vous dites les intégrer, comment est-ce que ça se passe très concrètement ? Comment est-ce que les habitants, les citadins peuvent-ils intervenir ?
Alors, il y a plein de façons différentes de le faire. Et on a fait un exercice de recensement, du coup, chez Bouygues Construction de ce type d'initiative. Et on se rend compte qu'on a une cinquantaine de retours d'expérience de ce type-là à travers le monde. Ce n'est pas uniquement un phénomène franco-français. Et sur tous nos métiers, donc sur tout ce qui touche aux différentes thématiques de la ville, finalement. Et donc, on le fait de façon très amont, je dirais, dans des réflexions un peu prospectives pour mieux comprendre quels sont les enjeux du territoire. Donc ça se fait sous forme d'atelier, sous forme de un peu de concertation, même si le terme est très cadré finalement, mais on sait aller mener des ateliers au sein des territoires en fédérant la collectivité, en fédérant des habitants pour réfléchir à un certain nombre de thématiques. Après, dans sa façon de la concevoir, on a des outils pour ça, on a un Serious Game qui a été développé au sein de Bouygues Construction pour permettre de co-concevoir des projets avec des gens qui ne sont pas des professionnels de l'immobilier et de l'urbain. L'exemple de Nicolas et de ce qu'on a fait ensemble à Marseille est aussi parlant dans la façon de les intégrer dans l'initiation des projets, c'est-à-dire avant que le projet soit terminé, il se passe généralement 2, 3, 5, 10 ans avec des sites sur lesquels potentiellement il ne se passe rien pendant tout ce temps-là. Et donc, on a aussi des dispositifs et des outils pour créer de la vie avant même que le projet existe de façon physique. Et ça, c'est extrêmement important pour ne pas avoir finalement ce qu'on a un peu vécu avec les ZAC, c'est-à-dire des projets neufs qui sont livrés, mais qui n'ont aucune âme, qui se ressemblent tous, dans lesquels il n'y a pas de vie, les pieds d'immeuble sont vides parce qu'il faut laisser le temps au commerce de s'implanter, etc. Donc il y a un très gros enjeu d'initier cette vie-là le plus en amont possible. Donc ça, c'est aussi une façon d'intégrer les habitants pour les faire participer à la concrétisation des projets. Et puis, une fois qu'on a terminé, c'est aussi, initier la prise en main de ces quartiers, de ces réalisations par leurs usagers. Et donc ça, on a des exemples où en Suisse, on initie, on crée des associations de quartiers et progressivement, on laisse la main aux habitants pour la faire vivre. On sait aussi utiliser le numérique, hein, parce que le numérique est de plus en plus, se développe de plus en plus, donc au travers d'applications qui permettent de faire vivre et de créer du lien entre les habitants. Donc voilà, on a comme ça une trentaine de dispositifs possibles et qu'on sait utiliser au cas par cas, en fonction du contexte, en fonction des enjeux du territoire, etc.
Donc l'idée, c'est aussi de ne pas uniquement penser le projet à l'échelle du projet, mais à une échelle bien plus large pour qu'il puisse s'implanter de la meilleure façon qui soit.
C'est exactement ça. En fait, un projet, il se fait dans un contexte, dans un environnement, dans un territoire qui est assez problématique, qui ne sont pas les mêmes que le territoire voisin, qui a ses habitants qui ne sont pas les mêmes que ceux du territoire voisin. Et on ne peut pas, nous, en tant que professionnels de l'urbain, penser les bonnes solutions à la place des gens et les penser pour eux. Et donc, c'est pour ça que c'est important de les intégrer le plus possible, parce que finalement, la bonne idée, la bonne solution, elle vient souvent des gens qui y vivent, qui y travaillent, qui, eux, connaissent parfaitement, pour le coup, le territoire dans lequel le projet va venir se faire.
Finalement, cela fait écho à ce que vous disiez, Sonia, avec ce besoin de créer du lien. Est-ce que c'est créer du lien avec la nature, avec son environnement ?
Oui, créer du lien est un aspect essentiel de la question. C'est pour ça que nous sommes en ville et que nous vivons pas chacun ermite sur sa montagne. Il y a quand même une raison claire qui a amené les gens à être finalement aussi près les uns des autres. Et c'est justement celle-là de pouvoir être ensemble, être dans une logique dans laquelle cette proximité permet de fabriquer ce lien, et surtout ce lien, on va dire, inattendu, informel. C'est les liens les plus difficiles à créer. C'est pas tant les liens où nous nous donnons rendez-vous, où formellement nous savons que nous allons nous rencontrer, mais c'est plus cette fameuse sérendipité, cette notion des hasards bienvenus et inattendus qui font que nous croisons des personnes de façon, on va dire, inopinée et pas prévue. Et ça, cette possibilité qui est générée par le fait que nous pouvons nous rencontrer comme ça par hasard au détour d'une rue, d'un carrefour, d'une place, c'est quelque chose qui donne vraiment une valeur ajoutée au fait d'être si proche. Et c'est pour ça, entre autres, que les villes, et notamment les grandes villes, qui elles ont beaucoup plus de diversité encore dans le type de personnes que nous pouvons comme ça croiser, c'est finalement ça qui donne cette valeur ajoutée à être ensemble. Je dirais que c'est une des choses qui font que vraiment on a envie de se rapprocher comme ça aussi de façon aussi forte, en si peu de mètres carrés ou kilomètres carrés. Donc ce sera intéressant de voir comment nous pouvons, par l'aménagement de ces nouveaux espaces publics et par l'aménagement de ces nouveaux besoins finalement de biodiversité, créer des corridors que j'appelle corridors santé et biodiversité, dont le but est à la fois de nous faire bouger plus et mieux et de nous faire nous rencontrer, avoir des sociabilités plus fortes, donner beaucoup de place au mode actif, à la marche, au vélo, à la trottinette, etc. Donc je pense personnellement que c'est une évolution positive et qu'il faut la saisir comme une bonne opportunité pour renforcer le lien social et la fabrique du lien social.
Est-ce que pour vous, Nicolas, les critères évoqués par Sonia sont ceux que vous prenez en compte lorsque vous imaginez un lieu, que ce soit ici Montreuil, ici Marseille ou...
pas tous les critères, on prend les critères qui correspondent à notre activité, mais comment dire ça, nous, on répond à un besoin et des usages pour deux populations, on va dire. En tout cas, pour des urbains, mais nos lieux ne sont pas... On a des lieux aussi à la campagne, hein, donc ça marche un peu partout. Et le premier, c'est tous ceux qui veulent vivre d'un savoir-faire, donc au plus proche de chez eux. Voilà. Aujourd'hui, les ateliers ont disparu, quoi, disparaissent de plus en plus des villes, dont la pression immobilière, mais et aussi parce qu'ils sont dans un état précaire. Donc ça, c'est le premier, donc c'est de pouvoir leur fournir tous les services dont ils ont besoin pour pouvoir lancer et vivre, tout simplement, vivre de leur activité au plus près de chez eux. Et donc dans les besoins, ou ce que disait Sonette, où il y a le parcours, c'est-à-dire qu'ils habitent à une demi-heure, pas plus. Ils viennent en transport en commun. Ça, c'est le premier. Donc derrière, on doit gérer aussi tous les flux annexes, qui sont à la fois les flux de personnes, mais les flux de matière, les flux de création, qui sont gérés. Donc nous, il y a au cœur de notre activité, il y a la conscience de l'empreinte carbone et écologique, c'est-à-dire qu'on veut avoir un impact minimum. Donc on investit des lieux qui sont déjà des bâtiments qui existent. On ne va pas dans des bâtiments neufs, ou très 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 peu, parce que du coup, on préfère... être dans des lieux réhabilités qui ont nécessité moins de construction, moins de réhabilitation que le reste, ça c'est le premier. Et moins de déchets ou de camions polluants qui vont arriver pour les amener, ça c'est le premier. Le deuxième, c'est qu'on génère beaucoup de déchets, nous, de bois, de métal, de textile, de cuir. Du coup, on a organisé un système pour les réutiliser. C'est-à-dire qu'on chauffe avec des chutes de bois, qu'on chauffe la moitié des... en ville, hein, même en ville. Hein. On a des filtres hein, parce qu'il y a pour empêcher les émissions de particules fines ou ces trucs-là. Mais... Donc ça, c'est pour les professionnels. Après, pour les particuliers, en fait, il y a beaucoup d'urbains qui veulent monter en compétence sur des savoir-faire manuels et numériques. Du coup, on a des programmes de formation qui leur permettent, en fait, en quelques jours... de savoir utiliser une machine à bois ou autre. Donc, du coup, ils peuvent faire par eux-mêmes des choses chez eux et donc être moins dépendants de professionnels. Parce qu'un des trucs auxquels on croit, c'est plus on a moins maîtrise de savoir-faire, moins on dépend des autres. Ou alors, plus on est autonome, et même en ville. Alors, tous les urbains n'ont pas envie de faire du bricolage. Hein. Il n'y en a même pas beaucoup en ville. Mais il y en a quand même quelques-uns, quand même. En général, si on habite en ville, c'est pas les week-ends, c'est pas le bricolage qu'on a envie de faire. On a envie plutôt d'aller profiter de tous les services ou les divertissements que la ville offre. Mais il y a aussi de plus en plus de Français qui veulent trouver un métier qui a du sens. Dans les métiers du fer, alors il n'y a pas que l'artisanat, hein, parce qu'il y a aussi, nous, on accueille des personnes qui se reconvertissent ou des publics en difficulté qui vont créer des entreprises ou des marques de décoration. Des marques qui ont des plateformes de fabrication numérique, donc ils utilisent les savoir-faire du fer, mais ils deviennent partisans. Et comme il y en a de plus en plus, que la crise économique et sanitaire en poussait encore de plus en plus à trouver un autre job, et du coup on accueille beaucoup, nous on est un centre de formation en fait. Donc un des rôles de la ville aussi, c'est de, je trouve, et que nous on délivre, et que les tiers-lieux vont délivrer de plus en plus, c'est de permettre à des gens de changer de vie. De retrouver une autre vie, ou en tout cas de les accompagner dans une deuxième vie professionnelle. Voilà. Et donc après au niveau de l'écologie, il y a le plus court. Et au final, ce qu'on crée dans nos tiers-lieux, c'est des produits locaux, donc du circuit court, donc d'acheter local au plus près, quoi, de acheter, réparer au plus près de chez soi. Et derrière, dans les formations qu'on met en place, il y a les formations des métiers de la fabrication, des savoir-faire et des compétences de la réparation, mais il y a aussi toutes les nouvelles compétences qui apparaissent des métiers verts. Le réemploi, l'isolation, tout ça, qui se développe. Et là où il y a un gisement de métiers énormes, il va y avoir des milliers, voire des centaines de milliers d'emplois qui vont arriver dans les prochaines années.
Est-ce que vous travaillez aussi en partenariat avec des écoles, par exemple ?
Oui, alors, si on prend... on a des manufactures de 2 à 4 000 mètres carrés, plutôt pour les professionnels, et après, on a créé des Fab Labs associatifs, on va dire ça comme ça, ou éducatifs, notamment un à Montreuil, donc avec la mairie de Montreuil et 4 associations d'insertion, qui fait 300 mètres carrés, qui est au pied d'une cité en centre-ville. Et son rôle, en fait, c'est on travaille avec les écoles, il n'y a plus d'ateliers dans les écoles, quoi, dans les maternelles, dans les collèges, dans les lycées, il y avait ça il y a 50 ans. Donc du coup, il y a des profs qui intègrent dans leur programme pédagogique en fait des moments où les enfants fabriquent ou utilisent des outils numériques. Donc du coup, ils viennent dans ce Fab Lab. Et après, il y a on travaille beaucoup nous avec des écoles, on travaille avec l'AFPA par exemple. Donc c'est pas une école, mais c'est un centre de quoi, c'est le plus gros centre de formation de France, et on les aide à se transformer. C'est-à-dire qu'ils veulent transformer leurs 200 sites de centres de formation en France en tiers-lieux, et certains en tiers-lieux de fabrication. Voilà. Et donc dans le modèle économique, la formation est au cœur du truc.
Et c'est donc ce modèle que vous avez reproduit pour votre lieu à Marseille.
Oui, mais alors en fait nous le modèle, il y a un tiers des revenus qui viennent d'abonnements d'artisans qui ont leur atelier chez nous. Il y a un tiers qui vient de la fabrication, donc c'est des structures extérieures, grands groupes ou artisans ou architectes ou particuliers qui cherchent des artisans pour fabriquer. Puis le reste des revenus, c'est la formation. Et pour revenir à Ici-Marseille, en fait, Ici-Marseille, effectivement, nous, on est dans le quartier des fabriques, on est la première, le premier exploitant à s'implanter.
Est-ce que vous pouvez décrire ce quartier des fabriques, s'il vous plaît ?
C'est le sud des quartiers nord, donc c'est le long du port de Marseille, là où au nord, à peu près à 1,5 km, 2 km du vieux port, au nord. Donc c'est un quartier, très délabré, pour la plupart, où il n'y a plus de services, voilà, plus de services publics, même de services privés, où les entreprises, ni les habitants, ni les entreprises ont envie de s'implanter. Par contre, il y a une énergie, parce que c'est le quartier des puces et des halles. Et donc là, nous, on intègre le projet Fabric, c'est 15 hectares qui vont être réhabilités d'ici 15 ans, à peu près. Et nous, on est les premiers à s'implanter, parce que l'Euroméditerranée et Bouygues avaient l'intention de typer ce quartier à partir de savoir-faire, je ne sais pas comment dire ça, mais d'en faire un quartier productif, je appelle ça comme ça, moi. Où les métiers de l'artisanat, de la production en ville sont bien implantés dans le quartier et donnent même une connotation au quartier. Donc ce qui fait que nous, ici Marseille, c'est à la fois un tiers-lieu de 3500 m2, aujourd'hui avec une centaine de résidents, à peu près 60 savoir-faire, qui existent depuis 2 ans. On a ouvert en octobre, on a ouvert le 11 octobre 2018. Donc ça marche bien, ça fonctionne bien. On a aussi des programmes de formation, donc le modèle est classique. Et là, avec les équipes de Bouygues Construction au niveau local, là, on commence à travailler sur le... On va aider à la co-conception d'une partie du quartier. C'est-à-dire que c'est ça notre travail aussi. On n'a pas envie d'implanter une manufacture dans un quartier où tout le reste du quartier est fait sans nous. Parce que du coup, on va se retrouver tout seul et avec aucun lien avec le quartier. Donc en fait, moi j'impose, on va dire ça comme ça, en fait un partenariat où on devient AMO d'une partie. On n'est pas des experts d'AMO, mais en fait le but c'est de, à partir d'ici Marseille, de la communauté qui s'implante, qui est dans le lieu, c'est d'arriver à créer des services, des usages et des lieux hôtes qui sont en dehors d'ici Marseille, dans le quartier. Donc par exemple, un Fab Lab de quartier comme celui de Montreuil pour les habitants. Par exemple, une conciergerie technique où on peut trouver des matériaux, des chutes, où on peut emprunter une perceuse, où on peut trouver, où on peut se former à des machines, un centre de formation, un magasin qui vend du local. C'est ça, donc, du coup, ici Marseille qui fait 3500 m2 risque d'être exploitant avec des partenaires de 4000, 5000 ou 6000 m2 supplémentaires dans les fabriques. Ça va mettre plusieurs années, mais voilà. Donc l'influence d'un tiers-lieu peut, doit aller au-delà de ces quatre murs. C'est un écosystème, en fait, voilà, ici, Marseille, où tous les tiers-lieux qui existent en France sont un écosystème qui va au-delà des quatre murs.
On en revient encore une fois à cette idée de créer du lien. Julien, j'imagine que c'est ce que vous recherchez à faire également avec ce projet.
Exactement. Et en fait, quand on revient en arrière, le lien, c'est notre métier historique. Parce que le groupe a démarré dans la construction pure, construction de logements dans les années 50. Et le métier de constructeur, c'est quoi ? C'est de réunir et de créer du lien entre des artisans, des savoir-faire, des architectes, des chefs de projet. Et donc, c'est le métier qu'on fait depuis toujours et qu'on continue de faire aujourd'hui, au-delà de la construction pure, qu'on continue de faire dans l'immobilier et dans la fabrique de la ville. Et qu'on essaye d'élargir le plus possible au-delà des professionnels, effectivement, de l'immobilier, en intégrant dans ce lien-là les exploitants des lieux qu'on développe, les habitants et les usagers.
Sonia l'évoquait tout à l'heure avec la problématique des personnes âgées, mais pas uniquement, et j'aimerais qu'on revienne sur cette notion parfois un peu floue de ville inclusive. Sonia, pourriez-vous peut-être nous donner votre définition de la ville inclusive ?
Pour moi, une ville inclusive est une ville qui essaye non seulement en effet de créer cette plus grande biodiversité des publics possible que j'évoquais précédemment. Et en effet, quand je dis ça, c'est essayer d'avoir le plus large spectre d'âge possible, de commencer vraiment jeune. Je dirais qu'il y a quand même d'ailleurs des vrais déficits d'inclusivité au sens d'inclure vraiment l'enfant dans la ville, l'adolescent dans la ville notamment a aussi très peu de place. On essaye plutôt de l'en chasser par tous les moyens, alors même que c'est l'adulte de demain, ce sera la personne qui va devoir décider très rapidement à 18 ans, à 20 ans, s'il va oui ou non rester dans cette ville. Et je trouve pas spécialement que la façon qu'on a aujourd'hui de traiter nos adolescents est vraiment inclusive et lui donne vraiment envie de rester. Cette figure de l'adolescent dans la ville, pour moi, est une des figures les plus problématiques dans la façon qu'on a aujourd'hui d'aménager nos quartiers. Et je pense qu'il y a aussi d'autres moments à enjeu, notamment la question des mamans et des papas surmenés quand on a deux enfants, trois enfants, et on voit la difficulté, par exemple, à se déplacer en poussette, qui est quelque chose que je pratique constamment quand j'essaie de faire des audits pour voir dans quelle mesure les quartiers sont marchables ou sont désirables du point de vue de la façon dont on peut se les approprier. On voit qu'en fait, à tous les cycles de vie, nous rencontrons un certain nombre de problématiques au sens de rendre la ville inclusive. J'entends par inclusive aussi le fait d'inclure les désirs, c'est-à-dire d'être plus large sur le spectre, on va dire, de désir d'habiter, de désir de s'approprier les espaces, de désir d'investir les temps aussi, hein. Et donc du coup, c'est aussi la question des temporalités. Je pense que la ville n'est pas très inclusive dans la façon dont elle gère le temps, si vous voulez. Et ça, c'est un aspect clé de la question parce que on met à disposition beaucoup d'équipements ou beaucoup d'espaces publics. On se fatigue quand même, si je peux dire, à fabriquer tous ces lieux dans lesquels théoriquement les gens devraient être. Et on s'aperçoit à la fin qu'il y a quand même une certaine pauvreté dans les horaires dans lesquels ces lieux fonctionnent, ces équipements fonctionnent. On aurait pu utiliser de façon beaucoup plus intensive et beaucoup plus large et essayer d'avoir une façon de faire tourner les publics, si je peux dire, sur différentes temporalités. Et donc, j'aurais tendance à dire que pour moi, la ville inclusive, elle devrait aussi être une ville qui accueille de façon à plus large spectre, on va dire, tous ces désirs, toutes ces temporalités, ces lieux différents. Et donner vraiment la possibilité aux personnes, je dirais dans toutes leurs configurations possibles et dans toutes leurs façons possibles de vouloir investir ces lieux, de nouvelles opportunités de le faire, et puis de façon beaucoup plus hybride, au lieu de à ce point sectoriser les espaces comme on a encore beaucoup trop tendance à faire, même si je dois dire les choses s'améliorent sur ce front-là. On a aujourd'hui un certain nombre d'équipements, de services, dont d'ailleurs les tiers-lieux et les Fab Labs font partie, qui en effet, travaille les dynamiques de proximité et essaye de mettre au plus près des gens un certain nombre d'opportunités finalement pour que ces personnes puissent faire différents types d'activités dans un même espace. Et je salue ces efforts, je pense qu'ils vont dans la bonne direction. Je serais quand même encore beaucoup plus active de ce point de vue-là, et je pense qu'on pourrait encore faire beaucoup mieux, notamment pour intensifier des espaces qui sont sous-utilisés. Je pense par exemple à des lieux en lien avec le stationnement qui du coup reste vide la journée parce que les gens se déplacent avec la voiture ailleurs. Je pense à des lieux comme les préaux d'école ou les parcs notamment, qui sont des lieux qui sont très intensivement utilisés à certaines heures et pas du tout à d'autres. On voit qu'il y a, je dirais quand même, si on regarde bien l'intensité d'usage, on pourrait encore vraiment utiliser de façon beaucoup plus forte un certain nombre d'espaces. Et je ne parle même pas de tous les espaces résiduels qui n'ont pas vraiment une attribution claire et pour lesquels on pourrait aussi faire vraiment beaucoup plus d'efforts. Je pense qu'on est encore dans une attitude où finalement on met à disposition des mètres carrés sans vraiment avoir une logique qui pour moi serait beaucoup plus intéressante, qui est celle de considérer les mètres carrés à l'heure, si on peut dire, si vous voulez, qui regarde beaucoup plus les espaces en imbrication avec le temps. Et là, pour moi, on serait vraiment dans une ville qui, on va dire, serait beaucoup plus optimale de la façon dont elle se met à disposition des gens. Et derrière ça, il y a aussi la question de l'inclusivité sociale, au sens de vraiment avoir un accès facile. C'est vraiment la question du droit à la ville, y compris donc dans les dimensions de gratuité et de facilité d'accès qui doivent aussi être à disposition des personnes les plus démunies.
Concernant l'inclusivité sociale, j'avais une question à l'attention de Nicolas et de Julien, bien sûr. N'y a-t-il pas un risque finalement de gentrifier ce quartier en faisant le choix d'implanter un tiers-lieu et un éco-quartier au cœur d'un quartier finalement démuni de la ville de Marseille ? Et est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que la population se gentrifie et que les personnes les plus démunies, les plus défavorisées, soient finalement poussées à l'écart de la ville ?
Ah si, si, il y a un grand risque. Et donc du coup, voilà, mais il y a un grand risque, mais en même temps, nous, dans notre modèle économique, en fait, on est une entreprise en fait, à impact. Et donc, dans les activités qu'on met en place, systématiquement, il y a de l'accompagnement de publics en difficulté. Donc, de formation, de programmes dont je parlais tout à l'heure. Et donc, systématiquement, on travaille avec l'écosystème local d'associations, de groupements, de jeunes et autres, pour pouvoir, en fait, effectivement, que ici Marseille ou que tous les sites qu'on lance ne soient pas. Déconnecté du quartier. Alors, c'est pas facile. Hein.
Julien, j'imagine que c'est l'une de vos préoccupations majeures et qu'en cherchant à créer des projets plus citoyens, vous essayez d'inclure tout le monde. Comment est-ce que vous vous y prenez très concrètement ?
Alors, effectivement, je rejoins Nicolas, c'est effectivement un gros enjeu de ne pas gentrifier la ville et de la rendre toujours plus inclusive. Donc, pour ça, il y a plusieurs façons de le faire. On en a déjà parlé, il y a dans la façon de la concevoir et de la penser, en étant inclusif finalement dans cette façon de faire, dans la façon de la fabriquer. Mais au-delà de ça, finalement, tout l'enjeu pour nous, il est dans l'après. Et compte tenu de l'organisation des métiers de l'immobilier, finalement, on se retrouve à être des acteurs qui faisons une promesse à un moment donné, la promesse d'un projet inclusif, d'un projet qui va améliorer la qualité du bien-être de ses habitants, la qualité de vie, pour lequel on est assez peu redevable finalement, puisque une fois que le projet est terminé, tous les acteurs que nous sommes ne sommes plus là. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on essaye de contrecarrer, effectivement. De plusieurs façons. Déjà en travaillant avec des partenaires comme Nicolas, avec ici Marseille, qui eux vont rester présents dans l'exploitation, donc en favorisant l'implantation de services qui vont contribuer à cette inclusivité.
Et donc une implantation en amont.
Et qui est pensée le plus en amont possible, effectivement. Je le disais tout à l'heure, en initiant un certain nombre d'initiatives pour lesquelles les habitants derrière vont prendre le relais, mais en s'en assurant dans la continuité. Je parlais de l'exemple en Suisse, sur ce projet. Il a été livré il y a 5 ans. On a créé cette association. On a financé un animateur pour l'association pendant 2 ans. Aujourd'hui, 5 ans après, l'association existe toujours. Elle a été reprise par les habitants. Elle est extrêmement active. Elle crée énormément d'événements. Et donc, ça, c'est ce qui nous montre que finalement, ce qu'on a cherché à créer autour du projet, la promesse est tenue quelque part. Donc il y a plusieurs dispositifs. C'est, je pense, ce qu'il y a de plus compliqué pour nous finalement, parce que c'est ce sur quoi on a le moins la main. Et pourtant, c'est ce sur lequel il y a le plus d'enjeux et c'est ce sur lequel on nous attend le plus. Donc on y travaille fortement, effectivement.
Il y a bien évidemment un dernier point que je voulais aborder avec vous trois aujourd'hui, et c'est cette notion de ville plus écolo. La crise sanitaire nous l'a prouvé, les citadins sont en quête d'une ville plus verte. Sonia, vous l'avez brièvement évoqué, mais quelles alternatives s'ouvrent à nous concrètement, mis à part les îlots de fraîcheur que vous avez déjà mentionnés?
Je pense que c'est plus, en effet, beaucoup plus large que ça. Une mesure que je préconise souvent et qui est relativement simple à faire est celle qui consiste à créer les deuxièmes pots des parcs, qui consistent finalement à dire qu'autour des parcs existants, nous avons hérité d'un certain capital de parcs hérités du 19e généralement, et on voit qu'au cours du 20e siècle, nous avons fabriqué très peu de nouveaux parcs. En revanche, conquérir les rues autour du parc existant, ça c'est une approche qui pourrait être menée de façon beaucoup plus facile et systématique. Si on agissait ne serait-ce que sur les 5 premières minutes autour des parcs existants, on arriverait déjà par des actions ciblées de végétalisation, d'intégration de mobilier urbain, de création de bandes ludiques pour les enfants et leurs familles, d'espaces de convivialité. On pourrait finalement rendre le rayon d'influence des parcs beaucoup plus grand en travaillant sur ces deuxièmes pots. C'est une façon de verdir la ville qui serait à la fois très acceptée par la population, facile à défendre politiquement, les gens peuvent comprendre la notion, et puis qui est aussi quelque chose qui, augmente de façon très exponentielle l'accès finalement à la nature en ville. Il y a d'autres façons de faire. Je pense qu'il y a des façons qui touchent directement les constructeurs, notamment de nouveaux quartiers, puisque les nouveaux quartiers pourraient servir de locomotive, je dirais, verte, si je peux dire, au sens d'intégrer des quotients de végétalisation beaucoup plus forts que ce qu'ils font aujourd'hui. On reste encore aujourd'hui un peu dans une verdure décorative, si je peux dire, hein. On va pas beaucoup plus loin que de planter un certain nombre de mailles arborées ou de micro-éléments de verdure, mais je pense qu'on n'est pas du tout encore au quotient de végétalisation dont on aurait vraiment besoin pour créer cette ville biophilique qu'on évoquait précédemment, sachant que c'est une approche qui a quand même ses limites, puisque la composition ou la création de nouveaux quartiers reste quand même limitée. On parle là de 5% peut-être, dans le meilleur des cas, de la production urbaine, je dirais, par année. Donc c'est pas ça qui va fondamentalement changer, mais je pense que si ces nouveaux quartiers assumaient quand même ce rôle de locomotive, ils pourraient générer en effet des effets de contagion dans les quartiers aux alentours, et en tout cas servir eux de point focal. Julien parlait précédemment des enjeux à résoudre. Je pense que c'est un des enjeux que la construction neuve doit résoudre, c'est-à-dire qu'elle doit assumer d'une façon peut-être difficile à assumer, mais j'entends un capital de verdissement qui doit être plus fort que celui, je dirais, de la ville déjà installée. Ça n'empêche pas que du coup, on doit aussi beaucoup réfléchir à comment finalement la ville déjà produite doit intégrer maintenant ce besoin de nature au plus près, et comment on peut faire pour transformer les quartiers déjà aujourd'hui, qui sont déjà là, et notamment les quartiers dits politiques de la ville, qui sont souvent moins, où l'accès à la nature est parfois rendu plus difficile, ou en tout cas l'entretien ou la façon dont la maintenance est gérée sur ces espaces. Les espaces peuvent exister en tant que tels, mais ils sont souvent sous-équipés ou dégradés. Donc il y a des vrais enjeux, je dirais, aussi liés à cette question de la maintenance et du confort global, de l'habitabilité, si je peux dire, de ces espaces verts, pour moi, c'est une vraie question. Mais quand on dit aussi ville écolo, je pense qu'il y a d'autres questions derrière que vous soulevez, qui sont tout aussi importantes, hein, la gestion de l'énergie, la gestion disons, d'une sobriété, d'un recyclage des matériaux. Là, justement, les makerspaces peuvent avoir un rôle à jouer beaucoup plus important.
Et justement, Julien, pour rebondir sur ce que dit Sonia et ses écoquartiers qui serviraient de locomotive, est-ce que vous aussi, vous avez observé cette tendance de ville plus écolo ? Est-ce que vous avez aussi des exemples à nous donner ?
La ville plus écolo, c'est un vaste sujet et c'est certainement le plus urgent auquel on doit résoudre, effectivement. Moi, j'en ressors trois choses de cette thématique-là. La première, c'est le sujet, effectivement, de la nature et de la place de la nature dans la ville, on y en a parlé. Et donc là, c'est un équilibre qui est difficile à trouver, hein, notamment un équilibre aussi économique dans le développement des projets, mais sur lequel on fait quand même beaucoup de choses, dans l'exploitation des toitures d'immeubles pour développer des jardins, sur la place qu'on accorde dans l'aménagement public à la nature. Et dans le cadre des projets qu'on développe, on va très très loin sur ces sujets-là. Après, il y a un deuxième sujet dans la ville plus écolo, qui est le sujet du climat et du carbone, qui est un sujet majeur pour nous, et pas que pour nous, pour tout le monde, sur lequel on est très grand contributeur de solutions pour la fabrique de la ville, sur les matériaux. On investit énormément pour développer la construction bois, pour développer la construction à travers de matériaux biosourcés. Dans son exploitation dans la ville, en favorisant des usages qui vont permettre de réduire les émissions de carbone en termes de mobilité. Et donc ça, on le fait avec énormément de partenariats. On travaille avec Renault sur ces sujets-là, sur la performance des bâtiments, sur le fait de construire des bâtiments toujours plus performants en allant au-delà de la réglementation qui est toujours un peu en retard par rapport à ces enjeux-là. Et puis, le troisième point que je voulais soulever sur cette thématique de la ville plus écolo, c'est le sujet de l'artificialisation des sols, qui est un sujet qui prend de plus en plus d'importance et sur lequel l'exemple de Marseille dont on parlait est vraiment parlant, puisqu'on est sur un bout de ville, un quartier qui va être construit sur une friche urbaine. Et donc, ça nécessite un certain nombre de savoir-faire qui ne sont pas les mêmes que quand on construit la ville au travers de l'étalement urbain. Et quand on regarde chez Link City, donc, qui est notre filiale promoteur immobilier, on a aujourd'hui une trentaine de projets de ce type-là qui refabriquent la ville sur la ville, finalement, en convertissant des friches urbaines. Et on voit que c'est l'avenir de la fabrique de la ville. Elle va devoir demain se reconstruire sur elle-même, puisqu'on ne peut plus artificialiser des terres agricoles et étendre la ville et avec toutes les contraintes que ça génère ou que ça a généré en termes de mobilité, de proximité à l'emploi, etc. Donc moi, c'est les trois points que je voulais soulever sous cette terminologie un peu de ville plus écolo. C'est effectivement l'artificialisation des sols, le climat, le carbone et la place de la nature. Alors effectivement, on met en place un certain nombre de démonstrateurs sur ces sujets-là. Des démonstrateurs, c'est des projets réels, mais qui sont allés très très loin sur un certain nombre de thématiques et qui l'ont porté très fortement. Et sur ces sujets-là, sur le sujet du carbone, on est en train de réaliser le premier quartier zéro carbone à Paris, qui est le projet de l'îlot fertile au nord de Paris, qui se fait en construction pierre. On a un projet qui vient d'être livré. Les gens y vivent à Grenoble, qui s'appelle ABC. ABC pour Autonomous Building and Citizen, qui est le premier bâtiment autonome en énergie et en fluide, donc qui ne consomme pas d'énergie venant de l'extérieur et qui ne rejette rien dans les réseaux. Voilà, ça c'est des exemples et parmi tant d'autres. Effectivement, c'est quelque chose sur lequel on nous attend et on est vraiment force de proposition. Ouais.
Oui, en effet, le secteur de la construction devra nécessairement passer par une transition écologique et énergétique, c'est certain.
C'est plus qu'une nécessité, c'est un prérequis. On ne peut pas imaginer un projet aujourd'hui sans prendre en compte ces considérations-là, évidemment.
Nicolas, vous l'avez déjà un petit peu évoqué, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, cette notion de ville plus écolo, et notamment sur la réduction, sur la question de la réduction des déchets. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter à ce sujet ?
Je vais parvenir sur ce que a dit Sonia et Julien, mais je pense que ça dépend surtout de compétences de ceux qui construisent et de ceux qui vivent à la ville. Et qu'aujourd'hui, il y a peu de métiers, quoi, les métiers qui vont permettre de construire la ville d'une manière plus écolo, si on peut dire, et de la penser, de la construire et de la vivre, on les voit émerger. Mais du coup, c'est ça l'enjeu pour moi, c'est-à-dire que c'est un manque de compétences et de connaissances. Et que voilà, il faut que chez les constructeurs, chez les cabinets d'archi, dans les tiers-lieux et partout, il y ait des pros de la valorisation des déchets, du tri, de l'éco-conception, de l'éco-construction, de tout ça. Et quand on aura les compétences, on y arrivera.
Est-ce qu'il y a d'autres pays qui pourraient nous inspirer ?
Moi, c'est les pays nordiques.
Julien, sur cette idée de s'inspirer d'autres pays ?
Alors, nous, on est très présents en Suisse depuis longtemps. Et effectivement, la Suisse est, je ne dirais pas avant-gardiste, parce qu'en France, on n'a pas à rougir. Mais en Suisse, on a déjà beaucoup de références qui vont très loin sur ces sujets-là, avec des projets 2000 watts, qui est une certification suisse.
Merci beaucoup à tous les trois. Je pense qu'on a pas mal débattu sur ce sujet et sur ce que pourrait être la ville de demain. Merci infiniment d'avoir participé à cette table ronde. À très bientôt. Et voilà, cette table ronde est déjà terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, l'ensemble des liens utiles pour suivre l'épisode seront indiqués en barre de description. Vous y retrouverez des liens vers les différentes interventions de Sonia, les manufactures de Nicolas ou encore le projet Cityplay porté par Bouygues Construction. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt !